Tiens, du réveil de l'Afrique de l'Est disait que le Seigneur Jésus n'est pas un demi-sauveur. Il n'est pas un sauveur qui nous donne simplement le pardon, donc la solution à la culpabilité du péché, sans rien faire quant au problème de la puissance du péché en nous. Il est un sauveur complet, notre sauveur. Oh, combien ! Et celui qui pardonne et remporte la victoire contre la culpabilité que nous avons engendrée contre Dieu, et aussi celui qui remporte graduellement, mais sûrement, la victoire contre le mal et les ténèbres en nous, dans nos attitudes, dans nos motivations, dans le tréfonds de ce que nous sommes, dans nos paroles et nos pensées, et dans notre comportement. Là où le Seigneur ressuscité est présent, la grâce règne. Avant de commencer, je dois vous dire que je vais parler de la vie, au sujet de la vie remplie de l'Esprit. Mais nous avons un problème, vous et moi. Parce que le terme « rempli de l'Esprit » signifie plein de choses pour différentes personnes ici. Et en fait, dans le Nouveau Testament, ça signifie deux choses très différentes, marquées par deux mots. Dans notre Bible, chaque fois que vous voyez la phrase « rempli de l'Esprit », ce n'est pas forcément le même mot. Il y a le mot « plérou », comme dans Éphésiens 5, 18, « soyez remplis de l'Esprit », et il y a le mot « pamplémie ». Non, aidez-moi les savants de grec, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, deux mots très différents. Un de ces mots signifie une effusion de l'esprit qui vient sur quelqu'un pour une tâche spéciale d'annoncer la parole de Dieu, comme à la Pentecôte. Ou comme la maman de Jean-Baptiste, quand Marie vient la visiter, elle est subitement remplie de l'esprit, elle ne l'a pas cherché, et elle prophétise. Et donc, il y a cette plénitude de l'esprit qui vient pour un moment, pour une tâche particulière, qui n'est pas recherchée, mais qui est un don surnaturel de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui le reçoit. Ce n'est pas tout le monde qui est rempli de l'esprit comme ça. Mais certaines personnes le sont. L'autre mot signifie non pas une effusion subite, mais une condition durable. Barnabas était un homme rempli de l'esprit et de la foi. Et c'est ce mot qui commandait, qui vous concerne, parce que Paul commande à tous les chrétiens et donc à vous, Dieu commande par cet autre mot, « soyez remplis de mon esprit ». Et en grec, le temps du verbe est dans le présent continu, on pourrait traduire « soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit », c'est-à-dire dominé, contrôlé par l'Esprit de Dieu, dirigé. Je dois dire une chose de plus en introduction, excusez-moi. Ne pensez pas que cette plénitude de l'Esprit est une chose tout ou rien. C'est plus comme quand on gonfle un ballon. Le ballon est rempli d'air. Mais attention, le ballon peut être encore plus rempli d'air. Et plus. Donc, vous pouvez être rempli de l'esprit. Il peut être en train de dominer et contrôler votre vie. Mais il y a de la place pour qu'il vous remplisse plus. Et pour qu'il prenne plus des chambres dans la maison complètement pour lui. D'accord ? Donc, la plénitude de l'esprit n'est pas une chose, mais une personne qui vient remporter la victoire de Christ dans notre vie pour la gloire de Dieu. Ok, on y va. J'ai quatre choses à dire. Première chose, la vie remplie de l'esprit est liée à la repentance. En Actes chapitre 2 et verset 38, Pierre, en prêchant le jour de la Pentecôte, dit « Repentez-vous et soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Repentez-vous et vous recevrez le Saint-Esprit. Jésus a dit à la femme samaritaine qu'il avait... Ah oui, très bien. Donc, vous voyez le lien entre la repentance et le Saint-Esprit. La femme samaritaine, Jésus dit, « Si vous saviez qui je suis et quel est le don de Dieu, vous m'auriez demandé et je vous aurais donné de l'eau vive, une eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle au sein de vous. » C'est le Saint-Esprit. Mais quand elle dit, « Donne-moi donc cette eau », qu'est-ce que Jésus dit ?« Va chercher ton mari. » Pourquoi ? Parce qu'il doit évoquer une situation qui mène à sa repentance. Parce que sans repentance, pas du don d'esprit ou pas la plénitude. C'est ainsi pour la conversion, mes chers chrétiens, c'est ainsi pour vous tous les jours de la vie chrétienne. Le péché non repenti dans votre vie, l'attitude d'irritation, d'égoïsme, d'inquiétude, d'impatience, d'orgueil, non repenti, arrête la coupe qui déborde. La coupe ne déborde plus. Et l'esprit qui vous remplissait de son fruit, de l'amour, de joie, de paix, se tourne vers un autre travail en vous qui est celui de vous convaincre de votre péché. Il n'arrête pas de travailler, mais son travail est différent. Les chrétiens de l'Afrique de l'Est ont compris quelque chose de vraiment, pour moi, très lumineux, qui découle de cela. Ils disaient qu'il y a beaucoup de chrétiens, figurez-vous, qui demandent la plénitude de l'Esprit, beaucoup, et rien ne se passe. Ou demande beaucoup les fruits, que l'Esprit œuvre en eux son fruit, l'amour, donne-moi plus d'amour, plus de joie, plus de paix, et il n'y a pas de changement. Vous savez pourquoi? Parce que la plénitude de l'Esprit est toujours liée à la repentance. Ça veut dire, si vous manquez d'amour, il ne suffit pas de dire « remplissez-moi et donnez-moi ton amour ». On ne trouve pas le fruit de l'Esprit, le ministère de l'Esprit, sur le mont de la prière. « Donne-moi plus de l'Esprit. » On le trouve au pied de la croix, en prenant la place du pécheur. C'est-à-dire, je manque d'amour, mon devoir, ce n'est pas de demander l'amour, c'est d'abord de confesser mon manque d'amour en tant que péché, contrit et brisé. Et là, je peux recevoir cette plénitude de l'Esprit. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui se repent de ses péchés, de ses manquements, de l'impatience, de ceci ou cela, vous demandez simplement au Seigneur de vous donner le contraire, vous n'allez pas aller loin. Parce que le premier devoir du chrétien est de prendre la place du pécheur vis-à-vis du manquement. C'est clair ? Ça va? Deuxième point. La vie remplie de l'Esprit est liée au sang de Jésus qui nous lave du péché. Vous voyez que ces deux points sont très proches. Le travail de notre Seigneur et notre Sauveur divin, en nous pardonnant de nos péchés par son sang et en nous remplissant de son Esprit, ce sont deux faces d'une même et seule œuvre. Le Sauveur délivre de la culpabilité du péché et de la puissance du péché, et les deux sont indissociables. Il a gagné les deux à la croix. Et nous avons une belle illustration de cela dans le livre de Lévitique, si nous pouvons voir le passage. La plénitude de l'Esprit dépend de la vertu purificatrice du sang de Jésus. Regardez ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Donc c'est un rite de consécration, je pense, du sacrificateur, si je me souviens bien du contexte. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit. Ici, ici, là. Pour représenter tout mon être. D'accord ? Le sacrificateur prendra du lobe d'huile et l'en versera dans le creux de sa main gauche. D'abord le sang, maintenant l'huile. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et fera avec le doigt sept fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile, image du Saint-Esprit, qui lui reste dans la main, sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le pouce de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous devons apprendre ? Qu'il y a le lien le plus proche possible et indissociable entre le sang de Jésus-Christ qui vous purifie de votre culpabilité et la plénitude de l'Esprit de Christ qui vous rend capable de ne plus vivre sous la domination de ces mêmes péchés. D'accord ? C'est formidable, n'est-ce pas ? Ne pensez pas que le Saint-Esprit est un don ou une provision que Dieu vous donne parce que vous priez, parce que vous jeûnez, parce que vous criez à Dieu, parce que vous faites toutes sortes de gymnastiques. La plénitude de l'Esprit a été obtenue une fois pour toutes pour vous lorsque le Fils de Dieu a courbé sa tête et a dit « Entre tes mains, je rends mon âme. » C'est là que vous avez reçu le sang qui pardonne, la vertu du sang qui pardonne et la puissance de l'Esprit qui renouvelle. Et la plénitude de l'Esprit ne dépend pas d'aucune autre condition. Moi, je veux vous dire, et je pense vous parler avec l'autorité de la parole de Dieu, que si vous êtes un chrétien qui est en train de prendre la place du pécheur et vous repentir pour vos péchés et croire dans le sang de Christ qui vous purifie, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour que votre vie soit remplie de l'Esprit. Aucune autre condition à remplir. Maintenant, le prochain passage va nous montrer ce qui se passe lorsque les gens veulent ajouter à l'œuvre de Christ une autre condition comme étant nécessaire pour avoir la plénitude de l'Esprit. Mais avant de lire le passage, je vous pose une question. Si je vous avais demandé au début de cette séance, êtes-vous rempli de l'Esprit maintenant ? Qu'est-ce que vous auriez dit ? Ou est-ce que vous vivez dans la plénitude de l'Esprit habituellement ? Ou peut-être pour certains de vous, j'aurais dû demander, est-ce que vous avez jamais vécu la plénitude de l'Esprit ? Parce que vous pensez que c'est un truc pour les élites, n'est-ce pas ? Alors, et quand vous pensez ça, vous êtes en train de dire, très bien, Jésus est mort pour moi, mais moi, je ne peux pas être rempli de l'Esprit parce que je ne suis pas un assez bon chrétien. Quand je vais être moins pécheur, quand je vais mieux obéir, n'est-ce pas ? Quand je vais mieux ceci ou cela, j'aurai droit à la plénitude de l'Esprit. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Vous êtes en train de faire dépendre la plénitude de l'Esprit de votre justice à vous. C'est tout. C'est la justice propre. Vous refusez encore de prendre la place du pécheur qui n'a aucun mérite et qui doit toujours recevoir tout comme un don gratuit et complètement immérité qui ne va pas du tout avec ce que vous êtes, mais vous le recevez quand même. Il y avait des gens qui ont commencé à ajouter des conditions pour avoir l'esprit. Aux Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit au début? Est-ce que c'était à cause de votre obéissance? Ou en écoutant avec foi, juste en croyant à ce que Christ a fait pour vous sur la croix? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair en ajoutant ces conditions? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Vous écoutez ce que Christ a fait? Vous pouvez demander, s'il veut parler de l'esprit et comment on reçoit l'esprit, pourquoi commence-t-il en disant que Jésus-Christ crucifié a été dépeint devant vos yeux? C'est simplement parce qu'il veut dire la seule condition pour avoir l'esprit, c'est la crucifixion de Jésus. Et il le dit à la fin. Donc, vous voyez, point, 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 je saute quelques versets, il explique. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, afin que, pour les païens comme vous, la bénédiction d'Abraham, le pardon et la justification, se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. D'où vient la promesse de l'Esprit? Christ nous a rachetés de la malédiction afin que nous recevions la promesse de l'Esprit. C'est tout. Donnant au Seigneur sa place. Toute seule. Il nous donne toutes les bénédictions de Dieu. Par lui seul et son œuvre. C'est magnifique, n'est-ce pas? Roy Hessian, qui était touché par le réveil en Afrique de l'Est, raconte une histoire qui peut nous aider peut-être. Un jeune missionnaire au Brésil, parce que le réveil de l'Afrique de l'Est a touché le Brésil et a bouleversé des vies au Brésil. Et donc, il y avait une conférence là, et cet homme qui était pasteur avait appris comment prendre la place du pécheur, le brisement, la puissance du sang de Jésus, et sa vie avait été vraiment révolutionnée depuis un certain temps. Il est venu à la conférence, on lui a demandé de donner un témoignage. Il avait vécu une vie de défaite chrétienne et sa vie avait vraiment changé. Et il donne son témoignage et à la fin de son témoignage, il finit avec ceci. Il dit à la foule de la conférence, « Je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit, c'est peut-être une bénédiction qui va venir, qui m'attend plus loin sur le chemin, certainement je suis en route. » Humble, n'est-ce pas? Mais Roy Hessian l'a pris à part après la réunion. Et gentiment, avec l'amour, il lui a dit ceci. Et il écrit ça dans son autobiographie. « Je regrette de vous entendre dire que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Car en Jésus, toute plénitude demeure. Et si vous venez à la croix, tout est là. Vous n'avez pas besoin de passer de là plus loin à la résurrection et puis à la Pentecôte. La résurrection et la Pentecôte sont à vous par le sang de Christ. » Dieu a placé toute plénitude là où les pécheurs peuvent l'obtenir. Et vous êtes venus à Jésus. Vous avez en lui maintenant tout ce dont vous avez besoin. Nous pouvons donc nous emparer par la foi de cette réalité là où le sang purifie, le Saint-Esprit remplit. Là où le sang purifie, l'Esprit remplit. Donc, la plénitude de l'Esprit est liée à la puissance du sang de Jésus. Troisièmement, la vie remplie de l'Esprit est pour maintenant et pas plus tard. Et je parle à vous qui êtes là. Et je parle à moi. J'ai lutté avec cette idée pendant des décennies. dans l'incrédulité. Vous savez, vous témoignez à Jacques. Jacques n'est pas chrétien. Il est difficile d'amener Jacques et tous les Julies, parfois, une fois qu'ils voient leur péché, de les amener à croire que le salut est pour eux maintenant, tels qu'ils sont. N'est-ce pas? Ça, c'est un de nos plus grands problèmes, une fois que quelqu'un voit son indignité. On veut les convaincre, mais ils ne le voient pas. Ils se disent en eux-mêmes, sans en être conscients, « Je pourrais devenir chrétien, Christ m'acceptera quand je suis un peu meilleur. » Un homme qui s'est converti dans notre église à Grenoble m'a dit un jour, après un culte, « David, je voudrais te parler parce que je veux demander le baptême. » J'ai dit « Quoi ?» Christophe était dans notre église depuis des années, pas converti. Et puis subitement, il demande le baptême. On était en dehors de l'église, j'ai dit « Mais explique-moi. » Il a dit ben, « je pense que j'ai compris l'évangile assez rapidement. » Il est brillant, cet homme. « Mais je pensais que j'étais trop mauvais pour être sauvé, pour venir à Christ. Et puis, enfin, j'ai compris, je suis trop mauvais. » C'est pour cela que je dois venir tout de suite à Christ. Mais vous savez que le non-chrétien qui fait comme ça, il est un peu comme nous par rapport à la plénitude de l'esprit. Parce que beaucoup de vous auraient répondu, non, je ne vis pas une vie remplie de l'esprit et je ne peux pas pour le moment, quand je serai mieux, comme Jacques, quand je serai mieux, comme si... La plénitude de l'esprit était pour les assez bons chrétiens, pour les améliorer juste un tout petit peu plus. Alors que nous sommes tous sans espoir en nous-mêmes. Et la plénitude de l'esprit est pour les pécheurs vides et mauvais, qui n'arrivent pas à avoir une bonne vie de prière, qui ne croient pas comme il faut et qui ont plein de défauts. C'est-à-dire, la plénitude de l'esprit nous est donnée au rez-de-chaussée. D'accord? Et pas à l'étage où vous n'arrivez pas à grimper. Francis Schaeffer a eu un bouleversement de vie, lui aussi, dans les années, je crois que c'était les années 60. Sa vie a été vraiment changée par la découverte, bizarrement, de ces mêmes deux points que la piété de l'Afrique de l'Est. Si vous lisez son livre, il dit dans l'introduction de la « Libéré par l'Esprit », il explique le changement de sa vie qui s'est passé en Suisse. Et il dit que j'ai redécouvert la puissance du sang de Jésus pour les péchés du chrétien maintenant. Et j'ai découvert... La puissance du Saint-Esprit maintenant. Et il a écrit ce livre qui s'appelle en français « Libéré par l'Esprit », mais le titre qu'il voulait donner à ce livre, c'était « Vivre dans le maintenant surnaturel ».« Vivre dans le maintenant surnaturel ». Pas demain, parce que si c'est demain, vous êtes sous la loi. Vous êtes légaliste. Et vous avez des conditions que vous pensez que vous allez remplir peut-être un jour pour arriver à la vie de l'esprit, la vie céleste, la vie surnaturelle. Et dans le réveil de l'Afrique de l'Est, ils ont compris que non, nous sommes pécheurs, si nous recevons quoi que ce soit, c'est maintenant parce que c'est une pure grâce. Dans le Éphésiens 5, 18, nous avons donc ce commandement qui est dans le maintenant. Soyez en train d'être remplis de l'Esprit. Vous n'avez pas d'option. Vous avez le commandement et vous avez une grâce incroyable de la part du Seigneur. La victoire de Jésus-Christ. Pas votre victoire, pas ma victoire, mais la victoire de Jésus-Christ. En nous. Je crois que tout le sens du psaume 23, c'est le maintenant. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me mène vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Tout est maintenant. Parce qu'il est spécial? Non, à cause de la toute suffisance du berger. Et comme j'ai dit, nous avons besoin de nous lever chaque matin et dire, Seigneur, aujourd'hui, moi, je vais être le problème et toi, tu vas être la solution tout au long de la journée. Ce serait plus facile comme ça. La solution suffisante pour quoi que ce soit. Ma culpabilité, ma faiblesse. La plénitude de l'Esprit est pour maintenant parce que c'est une bénédiction non pas à la taille de mes mérites, mais une bénédiction à la taille de la grâce divine et de la rédemption de Jésus-Christ. Si seulement je pouvais vous convaincre de cela, la taille de cette bénédiction est tellement grande que vous et moi, on a du mal à le croire. Mais c'est une bénédiction à la taille de qui Dieu est dans son amour pour vous et moi et dans sa grâce. Quatrièmement et dernier point. À quoi ressemble la vie de l'Esprit? Premier point. Nous regardons la personne remplie de l'Esprit et que voyons-nous? Nous voyons sa préoccupation. Là où l'Esprit remplit, la première chose qui arrive, c'est que ma préoccupation de mes pensées passe de moi, mes péchés, mes défaites, mes victoires, mon succès, mes dons, et je suis préoccupé par la grandeur de Dieu et par la beauté de Jésus-Christ et par le salut et la rédemption immensément prodigue de Dieu. Je ne peux pas me décaptiver de cela. C'est pour cela que quand Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », tout de suite il dit « Vous entretenant par des psaumes, des cantiques, chantant au Seigneur ». La première chose, c'est que mes yeux, ma pensée vont vers le Seigneur dans l'adoration. Ma coupe déborde. Et ça ne déborde pas au sujet de moi, mais au sujet de Dieu. Et je pense que nous apprenons à regarder Jésus-Christ, le regard sur Christ, sur tout ce qu'il a fait, sur tout ce qu'il est, sur cet homme parfait, sur cette humanité en lui, glorifié, tout ce que j'aurais dû être, il est. Et je regarde Jésus-Christ non pas en tant que dans la mesure où je l'expérimente seulement, où je vis sa plénitude en moi. Non, je le regarde tel qu'il est en lui-même complètement et tel qu'il m'est offert dans l'Évangile et tel que je l'aurai un jour au ciel. C'est comme ça que j'aime le regarder. Parce que j'expérimente tellement peu de lui en ce moment. Mais je vais l'avoir complètement et il m'aura complètement un jour. Deuxièmement, nous regardons l'individu rempli de l'Esprit et que voyons-nous? La direction de sa vie. La direction de sa vie. Nous pouvons aller jusqu'au verset, s'il vous plaît, en Matthieu. Voilà, tout à fait. L'Esprit nous, de plus en plus, domine notre vie et il détourne notre direction, notre vouloir de notre bonheur. Qu'est-ce qu'il a dedans pour moi? Je cherche mon bonheur. Je cherche ce qui est pour moi. Moi, je cherche à être quelqu'un. Et tout cela, l'Esprit évacue et cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous voulons faire ce que Dieu veut de nous. Son royaume, nous voulons être quelque chose à lui et pour lui, ce Dieu saint, moralement saint. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de quoi? De la justice, car ils seront rassasiés ou remplis, remplis de l'esprit. Ou bien si vous le voulez, explicitement, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Là, vous avez les deux points que je vous ai donnés. La paix et la joie, c'est la préoccupation avec la grâce et la grandeur de Dieu, c'est ma paix et ma joie. Et la justice, c'est l'orientation de ma vie maintenant. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa sainte justice. Ça veut dire que nous devons nous détromper. La vie remplie de l'esprit n'est pas une vie toute de rose. Quand vous cherchez le royaume et la justice de Dieu, il y a des rudes batailles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parfois nous sommes en bas, parfois nous sommes accablés. Paul dit, il a désespéré à un moment donné de la vie même, afin que Dieu le force à mettre sa confiance dans le Dieu qui ressuscite des morts. Et c'était un homme qui était rempli de l'esprit. De ville en ville, dit Paul, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Dans la vie de l'esprit, nous suivons Christ et parfois nous participons à ses souffrances. Mais dans l'esprit, c'est un privilège, n'est-ce pas, les amis, une gloire. Troisièmement, nous regardons cet individu, je me dépêche. Je le regarde, je vois sa préoccupation avec la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu, la rédemption de Christ. Je vois sa direction de vie vers la justice et le royaume. Et je vois aussi sa force. Il y a quelque chose qui a basculé dans sa manière de vivre. Je veux m'expliquer comme ceci. Dans l'Ancien Testament, la différence entre un faux Dieu, une religion de faux Dieu et la religion du vrai Dieu est parfois expliquée comme ceci. Le faux Dieu, si vous avez une religion de faux Dieu, c'est caractérisé par le fait que vous devez porter votre Dieu comme un fardeau. Vous devez le porter parce que cette statue ne vit pas. Alors que lorsque vous adorez le vrai Dieu, c'est vous qui êtes porté sur les ailes de l'Éternel. Et la vie remplie de l'Esprit est une vie qui bascule comme ça. Est-ce que votre religion est pour vous un fardeau que vous peinez laborieusement et tristement de faire marcher? Est-ce que votre vie chrétienne est comme quelqu'un qui a un mal de tête? Il voudrait bien s'en débarrasser, mais il ne peut pas enlever sa tête. Et parfois, des chrétiens sont comme ça. Leur vie chrétienne, c'est leur plus grand malheur, mais ils ne peuvent pas cesser d'être chrétiens. Et ça, c'est lorsque nous essayons de vivre la vie chrétienne comme si nous sommes le berger. Alors que le Seigneur est mon berger, il me conduit sur les sentiers de la justice, il me mène vers des verts pâturages, il me conduit vers les eaux paisibles, il restaure mon âme, il oint d'huile ma tête. Quand je suis en face de mes ennemis, il dresse une table devant moi et me bénit et me nourrit. Et ce n'est pas la brebis qui prend soin de sa vie. Il a l'heureux privilège que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Et ça, c'est un remarquable privilège que j'arrive pas, je dois avouer, à vivre comme je veux. Mais je tâche par la grâce de Dieu d'apprendre. Mon fardeau est léger et mon joug est facile. Ça, c'est le changement. Festo, qui vont gérer. C'était un des plus grands leaders du réveil de l'Afrique de l'Est. Il s'est converti merveilleusement, il a commencé à dévorer la Bible, à lire des livres chrétiens. Mais après un certain temps, il est tombé dans une sorte de légalisme. Et il n'allait pas du tout bien. L'euphorie est partie. Et Donc il explique par écrit comment le Seigneur l'a délivré. Et excusez-moi, je traduis de l'anglais aussi bien que possible, mais je n'ai pas eu le temps de traduire avant. Il dit ceci, subitement, dans la prière un soir, subitement, j'ai senti comme si quelqu'un me disait calmement, il ne parle pas d'une voix, mais dans sa conscience, « Festo, comment est-ce que tu es venu à moi ?»« Oh, Seigneur, j'étais dans un mauvais état. Et est-ce que tu m'as trouvé insuffisant pour subvenir à tous tes besoins qui étaient presque impossibles ?»« Non, Seigneur, tu l'as fait dans un clin d'œil. Tu as rempli mon cœur vide, tu as enlevé le fardeau de mon péché, tu as changé mon hostilité en amour, tu as ouvert tout un nouveau monde à moi. C'était toi seul, par le Saint-Esprit, quand je suis venu à toi, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Tu as fait tout ce que tu pouvais pour essayer d'être parfait et sans péché. Mais tu n'as pas tourné ton regard sur moi. Au début, la manière dont tu m'as reçu, de la même manière, marche maintenant. Il n'y a aucun autre endroit où tu peux aller sauf ma mort à la croix pour toi. Je suis toujours là et je suis toujours capable de gérer tout ce que le diable te lance. Aussi longtemps que tu es dans la chair, c'est à la croix où tu trouveras la puissance. Où est-ce que tu as obtenu ta libération au début ? À la croix, voilà, encore et encore. Festo dit, c'était un grand choc. C'était comme si le ciel s'est ouvert ce soir. J'ai vu mes luttes tellement pénibles s'évanouir simplement en se tournant vers lui qui avait été là, mais que j'avais presque outrepassé comme s'il y avait un autre. J'avais voulu trouver la clé à la perfection afin de plaire à lui, mais il est la clé. Mon raisonnement, c'était que je devais être parfait parce que Dieu voulait que je sois parfait. Mais j'avais laissé de côté la réalité que c'est lui la seule perfection. En déterminant de me présenter parfait devant Jésus, je cherchais une autre solution que Jésus. J'avais atteint la position où je savais que Jésus m'avait sauvé, mais maintenant je voulais le secret pour être parfait afin de lui plaire. En faisant ça inconsciemment, j'étais en train de dire que le Seigneur n'est pas suffisant. Il parle du fait qu'il entre dans une nouvelle phase de sa vie chrétienne, pas une phase parfaite, une phase où il doit retourner constamment à la croix, brisé à cause de son péché, mais où il retrouve constamment que Christ est suffisant. Et Christ intervient. Et Christ fait plus qu'il ne pouvait faire. Ensuite, les limites. Je regarde Jacques, ou Jean, ou Julie, personne remplie de l'esprit, et je vois aussi ses limites. Et il faut le dire, parce que la vie remplie de l'esprit n'est pas une vie parfaite comme nous venons de le dire. Ce n'est pas comme une ampoule normale, où c'est soit c'est allumé, soit c'est éteint. C'est 100%. Et il y a beaucoup de, peut-être d'entre vous, qui regardent la vie remplie de l'esprit comme ça. Mais la vie remplie de l'esprit est plus comme une ampoule qui marche sur un de ces interrupteurs graduels, n'est-ce pas ? Vous pouvez le mettre de plus en plus, en plus, en plus. C'est comme cela. Et Galates 5 nous dit, « Marchez dans l'esprit !» Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Elles sont opposées entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il y a la lutte. C'est normal si vous avez la lutte. Mais le chrétien rempli de l'esprit, et surtout le chrétien qui se repent, qui prend la place du pécheur, qui fait confiance au sang de Christ et qui se remet entre les mains de son berger et qui voit une sainteté inconsciente, enfin il ne le voit pas, il y a une sainteté inconsciente qui grandit en lui par une repentance consciente et répétée. C'est comme cela que ça se passe. J'ai deux points de plus dans ce profil du chrétien rempli de l'esprit et je m'arrête. Aussi, il y a ses attentes. Ses attentes. L'esprit nous met sur un terrain de grâce dans notre vie chrétienne. Et quand nous sommes sous la loi, nos attentes, comme j'ai dit déjà, sont à la mesure de nos mérites. Mais quand l'Esprit nous remplit, il nous apprend à ne pas faire ça. Et que nos attentes doivent être à la taille de la grâce de Dieu. Le psaume 23, 6 montre que David était rempli de l'Esprit parce qu'il dit ceci. « Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. » Regardez cette attente, cette anticipation. Il affirme comme ça. « Le bonheur et la miséricorde de Dieu vont tous les jours de ma vie me rattraper quand je vais bien, quand je vais mal, vont me poursuivre, vont m'entourer, vont m'assister, vont me guider. » Et je suis dans une attente de quelque chose de simplement inattendu, divine, toute divine, et qui va me garder dans une louange perpétuelle. Pas une perfection, pas le paradis encore, je vous ai bien dit, mais nos attentes pour nous, en tant que pécheurs, doivent être grandes. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre bouche la parole de Dieu et dire à Dieu que oui, à cause de Christ et son œuvre, le bonheur et la grâce me poursuivront et me rattraperont tous les jours de ma vie. Jean l'a dit comme ceci dans son évangile. La parole est devenue chair et nous avons contemplé la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu, il parle pour lui, les autres apôtres, et nous avons tous reçu de sa grâce, de sa plénitude et grâce pour grâce. Il décrit ses 3 ans avec Jésus. C'était comme ça. Il était tellement une plénitude d'amour et de pardon et de salut que tout ce que je peux vous dire, c'est nous avons tous reçu des flots, grâce pour grâce pour grâce. Et il ne change pas. La dernière chose que nous pouvons dire au sujet de la personne remplie de l'esprit, c'est son but ultime. Son but ultime n'est rien dans ce bas monde, ni le service chrétien fructueux, qui est un but, ni une vie sainte, qui est un but, ni le bonheur chrétien légitime, qui est un but. Mais il est quelqu'un qui est dans l'attente d'ailleurs. Et c'est pourquoi David dit, oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, mais il y a quelque chose de plus. Et je vais aller habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours. C'est là où je veux me poser. Et je crois que le Nouveau Testament nous permet de dire que la bénédiction de chrétien ne peut pas s'arrêter dans le présent et que David doit être compris en parlant de l'éternité. Car la maison de l'Éternel et notre demeure dans cette maison est éternelle. Et quand l'Esprit travaille en nous de plus en plus, il nous donne ce sentiment, « Seigneur, si ce que j'ai goûté de toi » dans ce pardon tellement répété de ce pécheur, dans tout ce que tu fais dans ma vie, si c'est que des prémices, alors seulement hâte le jour. C'est être avec toi que je veux plus que tout. La victoire de Jésus en nous, de plus en plus, nous faisons vivre cette vie de la grâce victorieuse de Dieu. Nous allons prier. Notre Dieu, ton serviteur David a dit que puisque tu étais son berger, il ne manquait simplement de rien et sa coupe carrément débordée. Nous pouvons te louer ce soir tous ensemble qu'un homme ait pu dire ça, poussé par ton esprit en toute vérité, que c'était la réalité pour David, l'adultère et le meurtrier. Tellement pardonné, tellement béni, car ta grâce pour de telles personnes comme nous est tellement immense. Seigneur, comment pouvons-nous comprendre tout cela? Comment pouvons-nous te bénir et te remercier que tu es venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance? Nous voulons simplement te demander pardon, car souvent nous n'avons pas cru, vraiment pas cru, à tout cela. Nous avons diminué ta grâce divine à la taille de notre justice. Et nous avons contristé ton esprit. Œuvre en nous, nous te prions. Donne-nous à voir que nous ne te glorifions pas en vivant une vie médiocre dans nos propres forces. Donne-nous une coupe qui déborde pour ton nom. Amen.